Rubel, Let et l'Uzza. Là, il y en a trois. J'en ai demandé combien ?
Cinq.
Il en reste deux. Tu t'es arrêté à trois. Tayeb. Donc, il s'est arrêté à trois divinités. Tout simplement, donc pour les trois, il a bon. Il y a les trois divinités qu'il a citées, Hubel, Let, l'Uzza. On peut rajouter une autre qui est aussi citée avec l'Uzza et l'Let, c'est Manat. Afaraytumul Lata wal Uzza wa Manat al-Thalithata al-Ukhra. Tayeb. Maintenant, comment est-ce qu'il a fait pour introduire ces divinités ? Après, on va citer le reste. Comment il a fait pour introduire ces divinités dans la péninsule ? Il a fait un voyage au Yémen. Il a fait un voyage au Yémen. Et durant ce voyage, il a vu des gens en train de se prosterner devant des statues. Il leur dit, vous faites quoi ? Parce que lui, il ne connaissait pas ça. Il était encore sous la religion d'Ibrahim. Ils ont dit, écoute, on adore ces statues. Comme ça, quand on a des problèmes, elles résolvent nos problèmes. Et quand on manque de pluie, elles nous donnent de la pluie. Il a dit, c'est bien. Je vais en prendre une. Il a pris qui ? Il a pris Hubel. Et il l'a installé où ? Devant la Kaaba. Et petit à petit, les gens ont commencé à créer de nouvelles divinités. Donc maintenant, c'est arrêté à trois divinités. On avait rajouté Manat. Il y en a d'autres, tout simplement, à cette époque-là, puisqu'on commençait à créer des divinités, on s'est dit, on va ramener de nouveau les divinités du temps de Nuh. C'était quoi les divinités du temps de Nuh ? Est-ce que quelqu'un les connaît, les divinités qui ont été adorées au temps de Nuh ? Ils sont cités dans la surah, surah Nuh. Naam. Oud, Suwa, Yaghouth, Ya'ouq, Nasr. Donc, le conte, là, on a même un peu plus que cinq divinités. Il y en a encore d'autres, mais dans cette question, on avait demandé que cinq divinités. Maintenant, trois mauvaises coutumes, parce que comme on sait, la religion, quand elle a été instituée, elle est venue en quelque sorte pour canaliser les pratiques culturelles. La religion, elle est venue pour canaliser les pratiques culturelles, c'est-à-dire que tout ce qui relève du culturel, c'est pour ça qu'on dit cultuel et cultuel. Tout ce qui relève du culturel, c'est tout ce qui émane de la main de l'homme, tout ce qui est la production de l'homme. Et tout ce qui est cultuel, c'est tout ce qui relève du divin, toutes les institutions divines. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a institué les préceptes religieux pour mettre de l'ordre dans les pratiques culturelles des hommes, parce que certaines pratiques culturelles n'étaient plus en adéquation avec ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala attendait des hommes. Tayyib, donc des mauvaises coutumes.
Le deuxième, c'est les
jeux de hasard.
La troisième, c'est
Donc, les Arabes avaient des coutumes plus ou moins étranges, parmi lesquelles ce qu'on appelle le maouda, l'enterrée vivante. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala, dans une surah, nous dit, et lorsque l'enterrée vivante sera questionnée, pourquoi ? Pour quelle faute a-t-elle été tuée ? Donc en fait, c'était une honte d'avoir une fille à l'époque. Donc quand on avait une fille, qu'est-ce qu'on faisait ? On la cachait. Le terme qui est utilisé dans le Coran, c'est caché. Yadusuhu fit turab. C'est-à-dire, il l'a cachée vivante sous la terre. Il y avait ça, et il y avait d'autres pratiques parmi lesquelles on trouvait, par exemple, quand les Arabes partaient en voyage, ils prenaient avec eux un morceau de la terre sacrée. Et quand ils faisaient une halte pendant leur voyage, ils posaient cette pierre et ils en faisaient le tour, comme si c'était la Kaaba. Le problème, c'est que progressivement, cette pierre est devenue un idole. Donc cette pierre, elle est devenue statue. Parmi les autres coutumes réprouvées, et à laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a échappé. Il y a une coutume à laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à sa naissance, il a échappé. C'était quoi cette coutume ? C'était quand le bébé venait de naître, il passait sa première nuit sous une marmite. On le mettait la première nuit sous une marmite. Mais quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né, on a voulu la faire, mais la marmite, elle s'est cassée en deux. Du coup, on n'a pas pu. Ça, c'était une protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça montre les bénédictions qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordées. Tayyib, là, on approche à partir de la question 11. L'événement qui marqua la naissance de la prophète, l'événement qui marqua l'année de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc quel événement marque la naissance de l'année du prophète et quelle en est l'origine? Donc il y a un événement particulier qui s'est passé. Naam.
L'année de l'éléphant.
Naam, l'année de l'éléphant. Et c'est quoi l'origine de cet éléphant? D'où est-ce qu'il vient cet éléphant? Pourquoi est-ce qu'on parle d'éléphant?
Il y avait un roi
et
son armée, ils avaient ramené.
Il y avait
un roi et son armée.
Naam. Non. Effectivement, avant les Arabes, ils avaient pas, ils numérotaient pas leurs années. C'est-à-dire qu'ils désignaient leurs années par le fait marquant qui s'était déroulé durant l'année. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on dit qu'il est né le 12 de Rabi' al-Awwal de l'année de l'éléphant. Pourquoi? Parce que cette année, il s'est passé quelque chose de particulier. Donc dans le sud de la péninsule arabique, essayez de visualiser un petit peu géographiquement cette région. Au sud de la péninsule arabique, il y a une région qu'on appelle le Yémen. C'est un pays qu'on appelle le Yémen. Le Yémen a été conquis par le Négu d'Abyssinie. Par le Najashi, le Négu, le roi d'Abyssinie, le roi d'Éthiopie. Il a annexé le Yémen. Donc le général qui est à l'origine de l'annexion du Yémen, il s'appelait Abrahat al-Ashram. Abrahat al-Ashram. Donc c'est lui qui a annexé, qui a conquis le Yémen. Une fois le Yémen conquis, il a eu un malentendu, un désaccord entre lui et le roi dont il dépendait. Il s'était autoproclamé roi du Yémen. Donc Abrahat al-Ashram, qui était simplement général, il s'est autoproclamé roi du Yémen. Donc pour réchauffer ses relations avec le roi d'Éthiopie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit « Je vais construire une église ». Je vais lui construire une église parce que Najashi, il était de religion chrétienne. Le roi d'Éthiopie, d'Abyssinie, il était de religion chrétienne. Il a dit je vais construire une église. Il l'a fait et cette église, elle était gigantesque. Et il lui a donné le nom, c'est pour ça d'ailleurs qu'on lui a donné le nom de l'Qulays. L'Qulays, en fait, ça vient de où? Ça vient de Qalansuwah. L'Qalansuwah, c'est quoi? C'est, si vous voulez, le turban qu'on met. On va dire que c'est le turban. C'est-à-dire que, pourquoi est-ce qu'il l'a appelé comme ça? Le mot de l'Qulays, il est dérivé de Qalansawah qui désigne donc le turban. C'est-à-dire que tellement qu'elle était élevée, pour la regarder, il fallait lever la tête jusqu'à ce que ton turban y tombe. C'est pour ça qu'il l'a appelé Al-Qulays. Donc, le problème, c'est que lui, c'était pas seulement pour réchauffer ses relations avec le roi d'Abyssinie. Il était également jaloux de ce qui se passait à la Mecque. Parce que la Mecque, à l'exception des autres tribus, elle bénéficiait d'une certaine aisance économique. Parce que chaque année, elle organisait le pèlerinage annuel. Et de ce fait, elle concentrait toute l'activité économique. Donc qui dit commerce dit bénéfice, dit argent. Tout l'argent, il rentrait à la Mecque. Donc lui, il a dit non, tous les bénéfices, ils vont à la Mecque. Et ben moi, je vais faire... comme ça ils vont venir faire leur pèlerinage, les Arabes vont tous venir faire leur pèlerinage chez moi et moi je vais récolter les bénéfices. Le problème, c'est que certains Arabes de Kinana ont eu vent de ce projet et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit on va aller profaner, on va aller brûler l'église de Abrahat al-Ashram. Donc ils ont essayé de la profaner. Abrahat al-Ashram, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ah, vous voulez détruire mon église, et ben moi je vais venir avec une armée. On dit qu'il avait 13 éléphants dans son armée. Je vais ramener une armée avec 13 éléphants. Et je vais tout détruire sur mon passage jusqu'à la Mecque. Tout raser sur mon passage jusqu'à la Mecque. C'est ce qu'il a fait. Il a ramené une armée avec 13 éléphants. Avant d'arriver à la Mecque, qu'est-ce qu'il a dit? Il a envoyé un émissaire pour aller négocier. À cette époque-là, il y avait un homme qu'on appelait Abdul Muttalib, qui est le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a envoyé cet émissaire, il lui a dit « Tu vas là-bas à la Mecque et tu prends tout le bétail qu'il y a là-bas. » Abd al-Muttalib, il est parti négocier avec Abrahat al-Ashram. Il lui a dit non. Il lui a dit, je veux mes chameaux. Abrahat al-Ashram, il lui a dit, mais ça va pas ou quoi? Moi, je suis en train de te dire que je vais venir détruire ta ville. Et toi, tu me dis, rends-moi mes chameaux. Qu'est-ce qu'il lui a répondu Abd al-Muttalib? Il lui a dit, écoute, moi, je suis le maître des chameaux. C'est moi, le propriétaire des chameaux. Mais la Kaaba, Baytullah, elle a son protecteur et c'est lui qui la protégera. Et il est parti. Qu'est-ce qu'il a fait, Abd al-Muttalib? Il a dit aux Mekwas, écoutez, Abrahat al-Ashram, il arrive avec une force supérieure à nous. Réfugions-nous dans les montagnes et voyons ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décidé. Dans certaines chroniques, on cite qu'il est parti du côté de la Kaaba, il a pris l'anneau et il a fait des invocations pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège la Kaaba. Et il est parti. Abrahat al-Ashram, il est venu. Ils ont mis le plus gros éléphant en avant. Il s'appelait Mahmoud. L'éléphant s'appelait Mahmoud. Le problème, c'est que chaque fois qu'ils orientaient l'éléphant vers la Kaaba, l'éléphant refusait d'avancer. On pouvait lui mettre des coups de lance, ça ne le faisait pas bouger, non. Il restait sur place. Quand il le mettait à l'est, à l'ouest, il partait en courant. Quand il le mettait à l'opposé, il partait en courant. On le dirigeait du côté de la Kaaba, il bloquait. C'est là qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il est mentionné dans Surat al-Fil, il y a une surat qui s'appelle Surat l'éléphant où Allah subhanahu wa ta'ala relate cet événement où il dit Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ne vois-tu pas comment Allah subhanahu wa ta'ala a fait des gens de l'éléphant? Wa arsala alayhim tayran ababil. On dit qu'il y avait des oiseaux qui sont venus de la mer. Ils avaient trois pierres, une dans le bec et une dans chaque patte. Et on dit même que sur chaque pierre il y avait le nom de celui sur lequel elle allait s'abattre. Et chaque fois qu'une personne était touchée de cette pierre, sa chair elle entrait en décomposition. Donc voyant ça, l'armée d'Abrahat al-Ashram a fait demi-tour et Abrahat al-Ashram est retourné et il est mort des suites donc de cette invasion. Il est mort et de ce châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est mort au Yémen. Donc ça c'est l'événement et l'origine de cet événement. Donc Abrahat al-Ashram, dans un premier temps, il voulait réchauffer ses relations avec son roi et il voulait faire concurrence à la Kaaba, à la Mecque, pour justement rediriger vers lui les bénéfices économiques. Tayyib, question suivante. Comment s'appellent les parents du prophète sallallahu alayhi wa sallam?
Son père c'est Abdullah et sa mère c'est Amina.
Naam. Amina, qui peut compléter? Amina bintou Wahb, naam. Amina bint Wahb et son père Abdullah ibn Abd al-Muttalib. Donc ça c'était la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est intervenue. La naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est intervenue 50 jours après l'attaque de Abrahat al-Ashram, après l'événement de l'éléphant. Question suivante. Quelles sont les trois personnes qui ont allaité le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Donc, quelles sont ces trois nourrices? Ah, je te laisse gérer, hein. C'est toi qui as le micro. Tu dispatches.
Trois personnes qui l'ont allaité. Sa mère Amina,
Thouhaba. Thouhaba, Thouhaba, donc la première qui l'a allaitée. C'est qui la première, logiquement? Logiquement, c'est sa mère qui l'a allaitée. La deuxième, c'est Thouhaba. Thouhaba, c'était qui? C'était la servante de son oncle Abu Lahab. Et Halima, c'était... Elle faisait partie de quelle tribu? On l'appelait Halima Sa'diya, elle faisait partie de la tribu de Bani Sa'd. Donc quand il y avait une coutume, celle que l'on retient le plus généralement quand on demande qui a allaité le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la première qui nous vient à l'idée c'est Halima. Parce qu'il s'est passé des choses plus que grandioses quand elle a pris en charge le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait une tradition chez les Bédouins. Il y avait une tradition qui voulait que on confiait les plus riches, confiait leurs enfants aux campagnards. Ils confiaient leur enfant aux campagnards. Pourquoi? Parce que quand l'enfant allait vivre à la campagne, il était plus robuste. Et donc, chaque fois, il y avait un afflux de femmes qui venaient pour prendre un nouveau-né à allaiter. Donc, Halima, quand elle est venue, il ne restait plus d'enfants. Pourquoi personne ne voulait du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Parce que son père, Abdullah, était décédé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas connu son père. On pense que Abdullah ibn Abdul Muttalib, il est mort alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait 2 mois mais dans le ventre de sa mère. Donc il n'a pas connu son père. Donc qui voudrait d'un enfant qui n'a pas de père? Ça ne rapporte pas de l'argent, parce que logiquement, si il prenait les enfants pour les allaiter, c'était pour en tirer un bénéfice. Mais Halima, qu'est-ce qu'elle s'est dit? Elle a dit, je ne vais pas repartir malgré tout sans nouveau-né. Je vais quand même prendre quelqu'un. Tant pis, ben je vais prendre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand elle est venue, elle avait une chamelle qui ne donnait pas de lait. Et elle avait une ânesse qui était tout au bout, en queue de peloton. Elle était à la fin du convoi. Quand elle est revenue avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son ânesse, c'est comme s'il lui avait mis un turbo. D'un coup, elle était devant, ils n'arrivaient plus à suivre les autres. Ils lui ont dit, qu'est-ce que tu as fait à ton ânesse? D'un coup, les mamelles de la chamelle ont commencé à gonfler. Elle commençait à avoir du lait. L'endroit même où elle habitait, Halima Sa'diya, cette tribu-là, les Banu Sa'd, il n'y avait aucune culture. D'un coup, il commençait à y avoir du fourrage, il commençait à y avoir des herbes fraîches pour le bétail. Si bien que les gens disaient, allez faire paître votre troupeau là où l'emmène le berger de Halima. Parce qu'ils savaient qu'à cet endroit-là, il y avait des pâturages. Donc tout ça, c'était des bénédictions qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a accordées à Halima Sa'diya, parce qu'elle a bien voulu prendre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors que tout le monde l'avait rejeté. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas de père. Tayyib. On passe à la question suivante. Question 14. Quel âge le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait-il lorsque son père mourut? Je viens de le dire. Lorsque sa mère mourut et lorsque son grand-père mourut.
Quand il est mort, ben, il n'était pas encore né. Quand sa mère elle est morte, il avait 6 ans.
Non.
Et quand son grand-père
est
mort, il avait 10 ans.
Il avait
10 ans.
10 ans? Qui a eu notre réponse?
Il a
8
ans.
Non. Effectivement, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand sa mère elle est décédée, il avait 6 ans. Quand son père est décédé, il avait 2 mois, mais dans le ventre de sa mère. Quand sa mère est décédée, il avait 6 ans. Et quand son grand-père, Abdul Muttalib, celui qui avait défié Abrahat al-Ashram, il est mort, il avait 8 ans. Tout ça, il y a une sagesse dans tout ça. C'est pour que plus tard, les gens ne disent pas, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam aura reçu sa mission, les gens ne disent pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sous l'influence de ses parents ou de son père ou de son grand-père. Allah subhanahu wa ta'ala l'a privé d'un père, d'une mère, de tout soutien familial. Donc la sagesse, elle réside là pour que personne ne puisse venir semer le doute dans les intentions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait une autre partie dans la réponse, c'est qui s'occupa de lui jusqu'à la révélation. C'est effectivement son oncle Abu Talib qui l'a soutenu jusqu'au début de la révélation. Donc tout à l'heure je disais, c'est une sagesse pour que les gens ne disent pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été soutenu. Même pour son oncle c'est une sagesse. Pourquoi? Parce que son oncle, il est même pas, quand il est mort, il n'était même pas dans la religion que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prêchait. Il n'était même pas musulman, il ne s'était pas converti. Donc on ne pouvait même pas dire que son oncle l'a influencé dans sa mission, parce que son oncle lui-même ne l'a pas suivi. Question suivante. Que lui est-il arrivé à l'âge de 5 ans? Donc à l'âge de 5 ans, que lui est-il arrivé? Tu parles en code ou là? Parle en morse. Vas-y. Naam. Bon, il a dit le mot clé. Il a dit le mot cœur. On accepte. Shaqqu as-sadr. Effectivement. Quand il était encore chez Halima Sa'diya, sa nourrice, il s'est passé un événement étrange. Alors qu'il était en train de jouer avec son frère de lait, il y a deux hommes qui sont venus habillés de blanc. Donc en fait, c'était deux anges parmi eux, l'ange Jibril. Ils sont venus, ils l'ont attrapé, ils l'ont allongé, ils lui ont ouvert la poitrine. Alam nashrah laka sadrak. C'est-à-dire, ils lui ont ouvert la poitrine, l'ange Jibril lui a pris son cœur, il a retiré, on dit le point noir, c'est-à-dire l'endroit où Shaitan insuffle son mal. Donc il a enlevé la place, on va dire, de Shaitan dans son cœur. Il l'a lavé dans une écuelle en or où il y avait l'eau de Zemzem et il lui a remis. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'épisode de Shaqqu as-sadr. Donc il avait 5 ans à cette époque. Question suivante. Mais avant d'aborder la question, je ne sais pas si j'aurai le temps. Je fais la question suivante et si j'ai le temps, j'y reviens. Quel fut le nom donné au grand pacte contracté par les tribus arabes et quelle en fut la raison ? Donc il y a un grand pacte à l'époque de l'Jahiliya, c'est-à-dire avant la révélation, il y a un grand pacte qui a été contracté par les tribus arabes. Quel était ce pacte ? Est-ce que quelqu'un a trouvé le nom de ce pacte ? C'est un pacte important et on va en retirer des leçons de ce pacte.
C'est
Hilf al-Fudul qu'on appelle, plusieurs traductions, on l'appelle le pacte des nobles ou le pacte des vertueux, Hilf al-Fudul. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Quelle en fut la raison? Est-ce que quelqu'un a trouvé la raison de ce pacte? Est-ce que quelqu'un a trouvé, pourquoi est-ce qu'il y a eu un pacte? Hilf al-Fudul, est-ce que quelqu'un a trouvé la raison de ce pacte? Tayyib, on va enchaîner. T'as trouvé? C'est Fouad. Ah, il est chaud, lui.
C'est parce que il y a beaucoup de paix entre toutes les tribus. Dès qu'il se passe, par exemple, il y en a avec une chamelle, il y a une guerre de 120 ans.
Effectivement, c'est...
Pour n'importe quoi...
4 minutes. Pas y est. Donc, effectivement, on va faire rapide. L'histoire de ce pacte. Une fois, il y avait un commerçant du Yémen qui est venu. Il a vendu, il a donné une marchandise à un arabe du nom de l'As ibn Wa'il. Le problème, c'est que l'As ibn Wa'il, il a pris les marchandises, il lui a pas donné l'argent. Le Yéménite, qu'est-ce qu'il est parti faire? Il est parti voir les tribus alliées, c'est-à-dire des tribus dont il pensait avoir le soutien. Donc il est parti les voir, il leur a dit, écoutez, voilà, moi je suis venu du Yémen, vous me connaissez. J'ai ramené ma marchandise, je l'ai donné à l'As ibn Wa'il. Le problème c'est que l'As ibn Wa'il, il est venu, il a pris ma marchandise. Enfin, au début, il ne leur a pas donné le nom de l'As. Il leur a dit, voilà, j'ai donné ma marchandise, on m'a pris la marchandise, mais on ne m'a pas donné l'argent. Ils ont dit, ouais, c'est pas bien. Ils ont dit, c'est qui t'a fait ça? Il a dit, c'est l'As ibn Wa'il. Ils ont dit, ah, c'est chaud, nous on ne peut rien contre lui. On va voir avec quelqu'un d'autre. L'As ibn Wa'il, c'était un notable de la Mecque. Donc ces tribus-là, ils ne voulaient pas avoir des problèmes avec l'As ibn Wa'il. Donc lui, qu'est-ce qu'il est parti faire? Il est parti voir les chefs de Quraysh. Il leur a dit, voilà ce qui s'est passé. Je suis parti voir l'As ibn Wa'il, je lui ai donné ma marchandise, il ne m'a pas payé. Il y en a un qui s'appelle Az-Zubayr ibn Abdelmontalib, il s'est levé, il a dit, on ne peut pas laisser cette injustice impunie. Tu lui as donné la marchandise, il voulait la marchandise, il la paye. Maintenant, il ne veut pas, on va aller la chercher. Et depuis ce jour-là, chaque fois qu'il y avait une injustice qui était commise, ces gens, ce qu'on appelait de Hilf al-Fudul, et qui se sont réunis dans la maison de Abdullah ibn Jandal. Abdullah ibn Jandal, c'est lui qui a reçu chez lui les hommes de Hilf al-Fudul, les tribus de Hilf al-Fudul. Et depuis ce jour-là, chaque fois qu'il y avait une injustice, les gens de Hilf al-Fudul allaient pour réparer cette injustice. On passe à la suivante. Na'am. Ibn Jad'an. Na'am. Quel était l'âge du prophète au moment de ce pacte? L'âge du prophète sallallahu alayhi wa sallam au moment de ce pacte? 20 ans. 20 ans, ahsan. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait 20 ans. Vous voyez qu'il était jeune. Et on va quand même dire la sagesse de ce Hilf al-Fudul. Tout à l'heure, on parlait de citoyenneté. Notre religion, regardez. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, après la révélation, il leur a dit, s'il y avait encore un pacte du même type que Hilf al-Fudul, eh bien, je contracterai encore une fois ce pacte. Et même au temps de l'islam, il était fidèle à un pacte qu'il a contracté en période d'ignorance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre religion, elle ne nous interdit pas de nous associer avec des non-musulmans lorsqu'il s'agit de défendre le bien commun. C'est ça ce qu'il faut retenir de ce pacte Hilf al-Fudul. Donc l'âge du prophète, on l'a dit au moment de ce pacte, c'est 20 ans. Quel conflit va perturber la reconstruction de la Kaaba? Donc il y a eu un conflit. Non, mais le conflit, il y a eu un problème après la reconstruction de la Kaaba. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, ahsant. Donc effectivement, la Kaaba a subi des intempéries, des pluies diluviennes, si bien que ses murs en étaient fragilisés. Donc les Quraïchites, qu'est-ce qu'ils se sont dit? On va reconstruire la Kaaba. Chose qu'ils ont faite, la Kaaba a été reconstruite. Le problème s'est posé pour poser justement la pierre noire. Tous voulaient avoir l'honneur de poser cette pierre noire. C'est une pierre qui vient du paradis, la pierre noire. On est bien d'accord, tout le monde connaît la pierre noire. Donc ils se sont tous embrouillés pour ça, pour savoir qui allait. Et ils allaient même en venir aux armes. Il y en a même, ils ont pris une bassine de sang parce que c'était leur manière de montrer qu'ils allaient entrer en guerre. Ils ont trempé leur poing, ils ont dit voilà, ça va être la guerre. Et après, Allah subhanahu wa ta'ala, par un moyen dont il est le seul détenteur, il leur a suggéré de faire appel à l'arbitrage du premier homme qui allait entrer par la porte de Safa. Et le premier homme qui entra par la porte de Safa, c'était qui? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il a fait? Donc quand ils l'ont vu, qu'est-ce qu'ils ont dit? Pour voir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était très très respecté. Il l'appelait l'Amin. Ils ont dit, l'Amin, il est là, le digne de confiance, il est là. Notre problème, il est résolu. Malgré le fait qu'à ce moment-là, il n'était même pas encore prophète. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une étoffe, il a mis au milieu la pierre noire et il a dit, chaque tribu va en prendre un pan. Donc chaque tribu, elle est venue, tac, elle a pris un pan. Ils ont ramené la pierre au niveau où elle devait être posée et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a lui-même prise et l'a mise à l'endroit où elle se situe actuellement, à savoir Rukn Yamani, le coin yéménite. Donc quelle en fut la solution? On l'a dit. Quel était l'âge du prophète sallallahu alayhi wa sallam au moment de la reconstruction de la Kaaba? Allez rapidement, la réponse.
35 ans.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam au moment de la reconstruction de la Kaaba, il avait 35 ans. Pour quelle femme le prophète sallallahu alayhi wa sallam travaillait-il et quelle était sa fonction? Allez tous ensemble. Khadija al-Kubra bintou Khuwaylid. Donc il travaillait pour Khadija et quelle était sa fonction? Il était agent commercial. Donc en fait, elle a tellement été touchée par le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'elle a voulu être sa femme. Tayyib. Donc, la question suivante, avec qui se maria-t-il? Avec Khadija bint Khuwaylid. Et comment s'appelle la grotte où le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait faire ses retraites spirituelles? Hira, la grotte même où il reçut la révélation de l'ange Jibril alayhi salam. وبهذا نختم كلامنا. بارك الله فيكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. عملنا سوءا وظلمنا أنفسنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك السي فؤاد. بارك الله. اهلا السلام عليكم. السلام عليكم.
بارك الله بارك الله.
بارك الله.
الحمد لله.
بارك الله فيك.
حسن جدا 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 ما حفظك بارك الله فيك مولدي
السلام عليكم شوفا السلام عليكم ما شاء الله على بال الله ما شاء الله سريع بارك الله عليكم
Oui, vas-y, t'as vu.
Expliquez-moi.